Amer Fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous rencontrons aujourd'hui Emmanuelle Beckmann. Emmanuelle Beckmann est artiste et autrice. Elle développe un travail à la fois en duo nommé Beckmann et Sagou et en solo dont elle nous parlera aujourd'hui plus en détail. Elle nous présente Mes chers, édité aux éditions Mémoration en 2024 et Performance Fiction, un recueil de micro-fiction réalisé en 2022. Bonjour Emmanuel.
Salut.
Merci de m'accueillir aujourd'hui ici à Vendargue.
Ouais.
C'est ton atelier ici?
Alors c'est ma maison atelier, on va dire ça comme ça. Là tu as notre jardin, qui n'est pas attenant à... Enfin on peut y aller hein, si tu veux. Qui n'est pas attenant à la maison, qui est en face de la maison. Et voilà, où je travaille souvent en fait, dès qu'il fait bon. Je me mets là et je bosse dans ce verre. Et ça, c'est la maison. C'est une ancienne maison vigneronne. Donc avec le principe d'un rez-de-chaussée qui autrefois était des caves à vin, les caves et les cuves. Pour le cave pour stocker le raisin et cuve pour faire le vin. Et puis à l'étage, les pièces de vie. Donc là, tu as un oranger, un laurier, une glycine, une bignonne, une première terrasse. Et puis on en a une deuxième où on voit la mer.
Ouais. On peut aller voir la mer tout de suite.
Ouais, bah là, c'est là-haut. Il faut rentrer dans la maison. Ah, c'est bon. Là, je sais pas si on va la voir parce qu'en fait, tu vois surtout son sentiment, mais je peux te montrer en tout cas. Là, tu as toutes les feuilles qui sont, mais ça, c'est la deuxième terrasse. Et tu vois, on voit les pyramides de la Grande Motte. Bon, là, l'air, elle brille pas, mais on s'y remarque. Tu vois, on voit là-bas.
Si, ouais, ouais. Ouais.
Puis c'est un endroit très particulier parce que c'est un hameau qui, en fait, a été construit au début du 12e ou 13e, il y a une chapelle des Templiers qui a été répertoriée par les monuments historiques, je crois. Et toutes ces maisons-là qui sont mitoyennes, en fait, c'était les dépendances du château. Donc le château, il est juste au bout, en fait, c'est une espèce de grosse demeure. Et tout ça, en fait, c'était tous ces champs, etc., ou ces jardins maintenant, c'était le parc, en fait, les terres du château. Et progressivement, au fil des siècles, en fait, ils ont commencé à séparer les maisons. Et chaque maison avait son jardin en face. Et après, maintenant, tu as des maisons qui ont gardé leur jardin en face, et puis des maisons qui ne l'ont pas, et des maisons qui ont été construites sur les terres, quoi. Et en fait, on raconte que bah, au niveau des caves, au niveau de notre rez-de-chaussée, toutes les maisons sont reliées, donc tu vois bien qu'elles ont été fermées parce qu'en fait c'était un long couloir qui menait au château. Voilà, ça c'est pour l'histoire, pour le storytelling. Voilà.
Donc là on entre dans la maison.
Ouais, on rentre dans la maison, vas-y, ça c'est la partie
travail.
Bureau.
Très paisible,
ouais,
cette
ouais.
vue.
Puis c'est hyper lumineux et complètement traversant, donc c'est sûr que c'est super agréable.
Je t'ai pas encore demandé de te présenter. Peut-être tu peux nous parler un peu d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui.
Moi, je suis arrivée il y a une dizaine d'années sur Montpellier. Je suis parisienne de naissance et j'ai vécu à Paris 35 ans, je crois, à peu près. Voilà, je suis venue à Montpellier parce que je travaille en duo aussi. Je travaille toute seule depuis quelques années et en duo depuis 20 ans, le duo Beckmann et Sago, où on a pas mal exposé dans la région et puis évidemment ailleurs. Donc mon parcours, c'est je viens des, je pense que c'est peut-être intéressant de le dire, parce que je viens vraiment des lettres modernes, donc, et de l'histoire de l'art au départ. Puis j'ai fait une école de design, l'ENSI, les ateliers. Mais en fait, j'ai toujours et dans la pratique, même en tant qu'étudiante, et dans ma tête, l'envie d'avoir une pratique artistique plus qu'une pratique de design. Voilà, donc après, quand j'étais déjà dans cette école, j'étais aussi déjà dans un rapport de design qui était très expérimental. Voilà, et puis après, j'ai travaillé et comme designer et comme artiste au sein de ce binôme, et puis progressivement... j'en suis arrivée à enseigner en école d'art, en art et en design, et à continuer à travailler au sein de ce duo. Et puis, l'enseignement m'a amenée à faire une thèse sur les pratiques de performance, enfin sur la performance dans les pratiques d'art et de design, justement, autour de la question de l'objet et de l'objet usuel, et comment l'objet usuel était performé dans son usage. Et puis du coup, j'ai commencé à écrire, et donc maintenant je me présente aussi comme autrice et écrivaine. Voilà. Parce que j'écris des textes de fiction qui sont édités et qui donnent naissance à des performances.
Alors, voilà. Est-ce qu'on peut regarder un peu de près? Oui, ouais. Et puis peut-être même lire?
Oui, tout à fait, ah oui, bonne idée. Je vais chercher les exemplaires. Le premier ouvrage que j'ai écrit, c'est un ensemble de micro-fictions. Il y en a une vingtaine. Donc l'ouvrage s'appelle Performance Fiction, et c'est une vingtaine de textes très courts alors je vais peut-être le plus simple, c'est qu'en fait on a fait avec l'éditrice, on a pris le parti de mettre ce qu'on appelle un prière d'inséré, donc c'est une feuille volante dans laquelle on peut ajouter ou raconter en fait ce qu'on souhaite. Et l'idée, c'était de parce que sur la première et la quatrième de couve, c'est une image en fait de ces textes que j'ai performés sur scène, parce qu'il y a un spectacle aujourd'hui qui existe que j'appelle moi performance scénique, parce que c'est pas vraiment un spectacle au sens théâtral du terme, et c'est pas non plus de la performance au sens plasticienne du terme. Donc c'est vraiment cet entre-deux, c'est cet entre-deux que je cherche, et cette performance scénique dure à peu près 50 minutes. Et je performe la lecture de 7 de ces récits et de ces micro-fictions qui sont dans le livre. Et donc le petit prière d'inséré raconte un peu l'intention du projet, puisque sur la couverture, en fait, on a une photo de la performance scénique. Donc je me dis, c'est peut-être le mieux pour raconter l'intention du projet. Ici, j'ai voulu faire se rencontrer les mots et les gestes. La narratrice se confond avec l'autrice, qui se confond avec la performeuse. Écrire devient le prolongement de ma pratique d'artiste plasticienne. Les voix se mêlent, s'informent, se désunissent, s'harmonisent. Elles relatent des fictions de performance, imaginaires ou réelles, qui dépeignent une société en suspens, peut-être même en fin de course. 18 récits qui témoignent d'une sensation d'oppression, discrète mais insidieuse, qui traverse les humains, mais aussi curieusement les objets, parfois doués de paroles. Les fragilités des vies évoquées par la narratrice s'incarnent dans un geste ultime, intime et discret, tel une performance. Une sorte de sursis momentané, comme un soubresaut dans le réel qui prend chair dans la voix et par la voix. Parce que, sans doute est-ce là ce qu'il nous reste à faire advenir. Donc en gros, c'est que des textes qui sont très descriptifs sur des situations du réel, où le narrateur raconte finalement vraiment un moment de sa vie. Et le narrateur, la narratrice se sent en dissonance et donc va faire un geste, alors que moi je dis de performance, mais quand on est le lecteur et qu'on n'est pas forcément dans le milieu de la performance, on entendra juste un geste, mais qui raconte justement cette manière de se mettre à distance, ou en tout cas de refuser le monde tel qu'il est aujourd'hui, quoi.
Alors le geste, par exemple.
Il y a une. Alors une,
la fiction 2807, ça raconte l'histoire d'une femme qui vit au bord de la mer. Enfin, une femme ou un homme, on ne sait pas, c'est un jeu. Je peux lire quelques extraits. « Je guette les jours sans lune. Je piste les nuits où la surface de l'eau ressemble à du béton poli, noir, teinté dans la masse, ou à une gigantesque plaque d'argile. Seuls les phares au loin continuent imperturbablement leur séquence cinématographique, à la fois stressante et engageante. Les architectures métalliques du port, les taches frissonnantes de la ville sur la colline résonnent dans le paysage, en arrière-plan, comme un décor. Je sors ma bacque et la mets à l'eau depuis ce qu'on appelle ici prétentieusement la lagune. Je quitte ce monde pour rejoindre la planéité charbonneuse. » Donc elle décrit tous ses gestes et en fait, au bout d'un moment, elle sort une forme de... On ne sait pas très bien, elle appelle ça une lune obèse, couleur crème, petite tendance Snow White. J'ai travaillé pendant de longues années chez Farrow & Ball et je suis très sensible à la justesse terminologique des déminations colorées. En grossissant, la sphère déborde de part et d'autre des bords de ma navigation, créant un léger déséquilibre au fur et à mesure de sa prise de poids. Je dois moi-même me réajuster dans une gymnastique quelque peu comico-tragique, me faisant progressivement évincer par le volume que je produis, jusqu'à ce que d'un seul coup, la lune se hisse dans un saut dans le vide plutôt fougueux. S'ensuit un moment de réflexion et de prise de possession de l'image qui s'impose à soi-même. Le même suspense temporel que lorsque j'allais sur des chantiers des appartements. Quelle couleur fallait-il donc mettre au mur ? J'ai renoncé à tout cela. Désormais, la seule chose qui m'intéresse, une boule de Snow White en lévitation, devant ce qui ressemble à un vitrail céleste au format panoramique surdimensionné. Un vitrail monochrome noir bleuté grisonnant qui me rappelle l'audace du pitch black. Et comme j'arpentais à l'époque la surface des murs en les effleurant, pour mieux les cerner, je longe la ligne obscure de la mer en charriant ma lune au-dessus de moi. Et si les murs me renvoyaient par un murmure quasi ésotérique les envies enfouies des propriétaires, là, devant la surface plane du néant, aucun écho ne se manifeste. Et je ne sais pas bien à qui je donne en spectacle cette ovule démesurée, mais c'est ainsi que j'ai décidé de prendre ma retraite en renonçant à la recherche d'un sens. Voilà, donc ça, par exemple, c'est un autre. Alors, il y a toujours un flottement, en fait. On ne sait pas très bien, finalement, ce qu'on nous raconte.
Alors, comment ça se passe sur scène ? Quand tu lis ces textes, il y a des gestes qui sont improvisés ou qui sont prémédités ?
Alors, non, c'est très écrit sur scène. Mm-hmm. J'ai travaillé avec une comédienne, mais qui est vraiment spécialiste des questions de voix, qui fait beaucoup de fiction radiophonique, etc. Et qui est aussi metteuse en scène. On est deux à performer, donc je suis avec une autre personne que je suis allée chercher.
Il y a deux voix ?
Ouais, il y a deux voix.
Qui s'entrelacent ?
Donc, qui s'entrelacent. Et en fait, tout le travail en fait, scénique, c'est que finalement, je simplifie un peu, mais c'est qu'au fur et à mesure du spectacle, le jeu de la narration, on sent qu'il disparaît et qu'il se dissout dans le monde, mais qu'en parallèle, la voix prend de plus en plus de place et de corps et de coffre sur scène. Ce qui fait qu'au début du spectacle, le premier texte, en fait, c'est « Je suis sur scène, je marche, mais je ne parle pas », et la voix est enregistrée, est spatialisée et diffusée en fait, progressivement sur les quatre coins, le son est tournant. Et plus on avance dans le spectacle, en fait, plus la voix devient live, ou les voix, puisqu'on est deux. Et à la fin, ça finit avec un texte que je slame sur une musique qui est quand même assez présente. Et voilà, donc il y a vraiment cette espèce de progression de la prise de la voix, en fait, de sa place. Pendant que le corps du texte et le jeu du texte ou les jeux du texte semblent se dissoudre dans le monde. Et donc pour ce texte-là que je viens de lire en particulier, du coup c'est Alex Barnier, donc l'autre personne qui performe avec moi, qui lit ce texte quasiment sans éclairage, c'est-à-dire en fait elle le lit pour le coup, même si elle le connaît par cœur, hein, mais elle le lit avec une tablette. Donc il y a juste le rétroéclairage de son visage via la tablette. elle le chuchote presque, il y a quelque chose de très très mystérieux, et à un moment donné apparaît dans le fond de scénique sur le cyclo, une espèce de dégradé qui nous donne la sensation en fait qu'on est dans un soleil couchant ou un soleil levant, et projeté ensuite au fur et à mesure du texte une forme de rond blanc qui évoquerait cette fameuse lune. Et quand il y a cette fameuse phrase « Quelle couleur devais-je donc mettre au mur ?», il y a un temps de silence, le texte apparaît, « Quelle couleur devais-je mettre au mur ?», et puis elle-même le dit. Et donc il y a un espèce d'enjeu un peu de temps qui s'étire en fait, et de rapport entre la lumière de la scène, le texte qui est lu, le texte qui apparaît en mots. Et tout le spectacle, en fait, c'est pour ça que je parle de voix qui s'unissent et se désunissent, en fait, travaille ça, en fait. Comment ces voix, elles s'interpénètrent. Ce qui fait que la sensation qu'on a, en tout cas, moi, les retours que j'ai eus, mais c'est aussi comme ça qu'on a construit le spectacle, c'est qu'on ne sait jamais si, finalement, on est dans la voix d'une seule et même personne, enfin, dans la tête d'une seule et même personne qui se raconterait ces histoires, qui sont peut-être des gestes que la personne a réellement effectués dans le réel, ou si ce serait on est dans un métro et que tout le monde se fait son petit cinéma ou ses petites histoires dans ses vies personnelles, et que tout d'un coup, sur scène, sont réunies toutes ces histoires. C'est un peu composé comme ça, quoi.
Voilà. Et il y a de la musique ?
Oui, il y a, alors au niveau musical, il y a une espèce de nappe sonore, en fait, qui est une forme de fil rouge qui grossit au fur et à mesure du spectacle et qui évolue de plus en plus vers une forme de battement de cœur. Parce que le dernier texte, en fait, qui est slamé, raconte, en fait, c'est pareil, un narrateur, une narratrice, on ne sait pas, qui raconte en fait qu'elle descend dans le métro. On suppose donc que c'est à Paris, pour aller d'est en ouest. Donc sans doute la ligne 9, même si tout ça n'est pas décrit de manière précise. Et en fait, elle descend avec une petite caisse qui a un fil rouge, et elle attend que quelque chose se passe au moment où la vie quotidienne des gens qui prennent le métro pour aller travailler, que le métro devient de plus en plus dense, etc. Et donc, en fait, elle attend quelque chose. Je peux le lire, juste cet extrait-là. Alors, oui, parce que les textes du livre sont évidemment pas dans le même ordre que les textes sur scène, puisque c'est une sélection.
Ce livre que tu as dans la main, il contient tous les textes ?
Oui. Il contient tous les textes.
Et donc, ils sont choisis pour la performance. Il y a 7 qui sont choisis.
Il y en a 7 sur les 18. Voilà.
Mais ça peut changer ?
Non. Alors, oui et non. C'est-à-dire, sur la performance scénique telle qu'elle est conçue pour être jouée sur scène, c'est 7 textes. Voilà. Et il y en a même un 8e parce que j'ai eu une 2e résidence, donc j'ai continué à élaborer, à travailler. Mais par contre, j'ai pu montrer sur des formats plus de festivals d'art contemporain, etc. J'ai pu lire aussi ces textes, et auquel cas, là, j'en choisis 2 ou 3 en fonction du lieu, du contexte, du temps, d'invitation, etc. Et donc ça, ce texte, il est slamé avec un fond sonore qui est très présent. Et donc, je vais juste lire pour vous dire ce qui arrive. Donc, je ferme les yeux et j'attends. Des passagers montent et descendent. Des corps s'installent à côté de moi. Des genoux rencontrent les miens. Des mouvements d'air se déploient. Des plages de silence s'imposent. Des discussions monocordes les déchirent. La muette disparaît. C'est là. C'est à ce moment-là, quand la trajectoire prend un léger virage sur la droite, que surgit, des profondeurs urbaines, une onomatopée grave et cristalline, douce, ciselée, ronde. Boup, une boule sonore qui claque et ouvre un monde. Boup, 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 le chant qui monte est prologue et épilogue, un unique son comme une note musicale flûtée, intense et suave, scandée avec placidité. Elle envahit la rame et déchire le biotope métropolitain dans lequel nous baignons. L'obscurité estivale grandit. L'endormissement de la vie humaine se répand. L'amour batracien se déploie, de par les mares, de par les champs, de par les réserves verdoyantes que l'on tente de préserver, de par la ligne 9. J'ouvre les yeux. Une odeur de curiosité, d'inquiétude heureuse, d'écoute aiguisée envahit des visages. Saint-Augustin s'efface et l'alite accoucheur chante son amour. Une atmosphère bocagère imprègne le wagon, proche d'une magie sourde. L'humidité du mois de juillet se prolonge dans les méandres des sous-bois métropolitains. Les voyageurs continuent leur valse. Le signal du départ revient comme une rengaine dissonante. Les sonorités musicalement tribales, claires et concises, se brisent contre l'appel aigu de la fermeture des portes. Un curieux concert. Fermer les portes et faire surgir un autre biotope. Voilà, et donc le geste, c'est d'emmener ce crapaud, cet halite accoucheur qui va faire son chant, ce boop qui va surgir et qu'on ne voit pas puisque la caisse est cachée sous le siège du métro. Voilà. Donc c'est des gestes comme ça qui viennent s'insérer dans le réel et qui dissonnent.
Et le son, ils sont diffusés ou il y a des musiciens sur scène ?
Alors, ils sont diffusés. Mais là, je vais présenter en mars 2025, donc fin mars, je crois que c'est 27-28 mars, à la Baignoire à Montpellier. J'ai été invitée là en résidence, donc ça va permettre de parler du deuxième texte. En fait, donc je vais présenter, je vais très certainement lire trois textes qui font partie du nouveau projet d'écriture que j'ai, qui est plutôt une forme de collection de ce que j'appelle des lettres fiction, donc je vais expliquer. Et du coup, là, l'idée, c'est que ce soit la création sonore soit en live. Avec évidemment des parties qui seront préenregistrées, mais qu'il y ait toujours ce rapport entre texte lu, texte enregistré, création sonore en live et probablement, comme là c'est en construction, je ne sais pas encore, mais probablement des images dans lesquelles les mots vont aussi apparaître à des moments où la voix s'éteint, voilà ce genre de choses. Et en fait, donc, en 2023, j'ai été invitée en résidence par l'association L'Envers des Pentes, c'est très spécifique. En fait, on part une semaine en haute montagne, vivre dans un refuge. Et bon, moi, je fais beaucoup de montagne depuis que je suis toute petite. Et quand j'ai vu le principe de cette résidence, j'étais un peu comme une folle. J'ai postulé et je l'ai eu contre toute attente. Et donc, je suis partie une semaine dans le refuge de Vallompierre, dans le massif des Écrins. Fin juin. Et l'idée de cette résidence, c'est d'expérimenter évidemment ce que c'est que de vivre dans un refuge, la montagne pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, la vie en refuge aussi, les rapports avec les gardiens, avec les randonneurs qui passent, les alpinistes. Moi, j'étais dans un refuge où il y avait beaucoup de... Enfin, qui était vraiment intéressant parce qu'il était au croisement de plusieurs GR. Donc, en fait, on avait des randonneurs qui venaient... qui partaient sur des boucles d'une semaine, 10 jours. Mais il était aussi accessible assez facilement de la vallée, donc c'est des gens qui faisaient d'aller-retour. Et il y avait aussi des glaciers des montagnes à monter, mais en tant qu'alpiniste, donc des gens qui venaient faire des courses d'alpinisme. Donc ça générait tout un flux de personnes assez intéressantes. Et l'enjeu, c'est de partir avec une intention et de créer une forme suite à cette résidence. Et donc moi, j'avais proposé d'écrire un texte lié à la question du glacier et surtout à la question de la disparition des glaciers et comment la langue, le mot ou la littérature permet d'une certaine manière de faire survivre ces glaciers. Et donc ça a été édité par la même éditrice, donc c'est les éditions Murmuration qui est une maison d'édition indépendante à Paris. Donc en gros c'est vraiment sous le format lettre, c'est ce qu'elle m'a proposé quand je lui ai donné le texte. Et donc on a la sensation, voilà, donc c'est une enveloppe opalescente dans laquelle on voit finalement c'est un format A4, on a l'impression que c'est un format A4 plié en 3, comme une lettre pliée longitudinalement. Voilà, je ne sais pas si c'est très français, mais... Et on peut lire juste ce qui est écrit « mes chers », qui est finalement l'adresse de la lettre, mais le « mes chers » est écrit « chair.es ». Donc il y a ce jeu entre... voilà, chair, ami, chair, la chair de la peau, et puis l'idée de l'écriture inclusive. Tous les signes de la lettre sont là, puisqu'il y a mes initiales, comme si c'était celui qui écrivait la lettre, et puis le ici, un jour comme un autre, comme si c'était la date. Mais avec cette volonté de ne pas savoir où se situe cette lettre et quand elle a été écrite. Et en fait, quand on veut déplier, ce format dont on a l'impression que c'est un format 4 plié en 3, On a ce premier texte, donc cette première phrase qui ouvre en fait la lettre qui est écrite, c'est assez dur à décrire, dans le sens longitudinal. Et puis en fait à l'intérieur on a un livret de 6 pages où le texte se décline avec un dessin dont je parlerai, qui est tout le texte. Et en fait quand on déplie le verso de cette fameuse lettre, on a une carte et une grande énumération qu'on ne comprend pas forcément au début parce qu'on a blanc 1, blanc 2, carré, clair 1, clair 2, aiguille rousse 1, aiguille rousse 2, etc. Et tout ça s'éclaircit à la lecture du texte. Et ce texte, en fait, raconte un protocole. Moi, je travaille beaucoup sur cette question de qu'est-ce que c'est que la performance et est-ce que la performance... peut exister par le finalement juste entre guillemets par le texte littéraire et donc en fait ça raconte on sent que la narratrice raconte qu'elle est quelque part en montagne que des mots ont disparu parce que je lis quelques extraits, ce sera plus simple que de décrire. Des mots ont disparu parce que des mondes ont disparu. Après une agonie d'abord discrète, puis évidente et fracassante. J'ai pris conscience de cette inéluctable décorrélation entre les mots et leur monde, alors que je vivais pour un court temps à 2271 mètres d'altitude, dans une vallée que l'on considérait à cette époque comme relativement sauvage. J'avais quitté les chaleurs caniculaires, désormais habituelles, les incendies réguliers des zones forestières en souffrance depuis tant d'années, les trombes d'eau aussi impromptues qu'agressives. Je savais pourquoi j'étais venue là, mais je me laissais volontairement bercer par l'incertitude de ce qu'il adviendrait en étant immergée ici. Des mots sans doute, des sensations spirituelles très certainement, des souvenirs évidemment. J'étais ailleurs, et cela suffisait à ouvrir un espace-temps singulier où quelque chose pouvait surgir. Donc là, la narratrice raconte en fait une expérience de montagne, et puis arrive cette phrase, et je sus... Un matin, alors que je venais de gravir un col pour découvrir un panorama dont on me vendait la splendeur minérale, je sus que le glacier face auquel je me trouvais venait de trouver refuge en moi. Je restais un certain temps à tenter de comprendre ce que ces mots signifiaient et ce que mon corps hébergeur allait devenir, accueillant dans ma chair ce glacier mourant, engrisé de tous nos tournoiements industriels dont je pouvais lire les cicatrices comme les plaies à vif. Il me semblait qu'il s'était logé là, en moi, afin d'échapper à son destin. Exister en dehors d'un institut de glaciologie, un musée de l'Anthropocène, ou un livre d'images que les générations à venir, vous, mes chers, allez feuilleter comme témoignage de ce qu'on avait trop communément et trop facilement appelé le monde d'avant. Et donc la narratrice raconte qu'elle, avant de quitter ce vallon de pierre, elle prend des petits bouts de pierre au pied de ce glacier, sans trop savoir pourquoi. Et voilà. Et donc ça continue comme ça. Avec évidence, je me suis mise à vivre avec ce bleu pâle, éclatant de sa translucidité. Et lorsque des décennies plus tard, les glaciers alpins disparurent définitivement, il m'apparut que je devais partager ce bleu pâle, éclatant de sa translucidité, avec lequel je coexistais. Le corps de mes deux enfants devinrent les nouveaux refuges de cet hôte silencieux et lumineux. Et dans un élan plus engagé que je n'avais été capable de l'envisager, ils décidèrent d'inaugurer un geste. En mémoire de ces êtres qu'ils avaient vus s'engriser, puis mourir et disparaître. En écho aussi à celui dont ils étaient devenus les gardiens de refuge. Le jour de cette curieuse migration, ils se saisirent des quelques fragments alpins que j'avais récoltés des années auparavant au pied des glaces du vallon de pierre et les assemblèrent tant bien que mal pour les mouler. Ils en tirèrent deux copies dans un matériau qu'ils avaient élaboré eux-mêmes à partir d'une terre argileuse à laquelle étaient associées des particules de cristaux de roche et des éléments plus obscurs. La forme était à la fois étrange et naturelle, évoquant aussi bien un rocher miniature qu'un arbuste bonsaïfié au feuillage extrêmement dense. Une sorte d'hybridation curieuse que je ne savais pas réellement décrire, encore moins nommer, mais le frère et la sœur volontaires et audacieux, énoncèrent promptement qu'il s'agissait d'un lieu-lien. Donc ça continue comme ça, et ça finit ainsi. D'un commun accord, ils mirent de côté un tirage qu'ils transmettraient ultérieurement, tandis qu'ils allaient user le second. Le matériau se révélait dur, et la mise en grain qu'ils souhaitaient allait leur demander du temps, du soin, de l'énergie et de l'amour. Polir, poncer, réduire en poussière cette forme née de leurs mains, accoucher de son effacement progressif, entamer une plongée vers sa lente disparition, telle était leur ambition. Et de leurs gestes, que je voyais chaque jour se ralentir, s'économiser, s'amenuiser, comme s'il fallait qu'ils puissent durer le plus longtemps possible, émanait quelque chose de l'ordre du mémorial. J'étais sidérée par le soin que le frère et la sœur prenaient à acter, de par leurs gestes, cette disparition inéluctable et si rondement menée par leurs prédécesseurs. Comme si chaque caresse effectuée resserrait le lien entre cette forme née du glacier qui s'était réfugié en eux et leur corps. Au fil des semaines, le lieu-lien s'évanouissait, mais il me semblait que chaque grain de poussière volatile qui apparaissait, quittant sa matrice originelle, venait se lever dans la chair de ces deux jeunes adultes, et que cette disparition, loin de sonner comme le tosquin du Thanatocène, venait les attacher, les glacifier, les minéraliser, les atomiser avec tout ce qui n'était plus visible désormais. Mais qu'ils réussissaient, par la puissance d'un geste, à rendre palpable. Les mots retrouvaient une épaisseur charnelle, concrète, et le glacier, qui vivait ses dernières heures et qui avait fait d'un corps humain son refuge, tel son cri de survie, se colorait d'une puissance singulière, celle d'un mot fait geste.
Grammaire fantôme.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission Panardia Lichtig.